Finalement, mes notes. Oui. Pardon? Merci. Alors, nous sommes dans la dernière leçon, la dernière leçon du cours en esprit et en vérité. Nous survolons le livre de l'Apocalypse ce matin. Et on va aller ensemble dans un mot de prière. Eh bien, notre Dieu, j'ai été stimulé, j'ai été encouragé en survolant le livre de l'Apocalypse sur le sujet de l'adoration, Seigneur. Quel livre majestueux qui me fait rêver, Seigneur, au jour où je vais être dans ta présence, devant toi, en train de te louer, de t'adorer. Libéré de ce combat, Seigneur, ce combat entre les adorateurs de Dieu, du Créateur, et les adorateurs de Satan, Seigneur. Père, je veux te demander de venir nous instruire ce matin, de venir nous enseigner, de nous faire grandir, de nous inspirer aussi dans nos louanges par ce livre, de nous inspirer à soutenir le bon combat jusqu'à la fin, Seigneur, pour entrer dans la gloire. Seigneur, je te prie de nous accompagner aussi dans le résumé du cours afin qu'on puisse sortir de ce cours avec une vision plus claire de l'adoration que tu attends de nous, Seigneur Jésus. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Le livre de l'Apocalypse. J'ai marqué le livre de la louange. Dans tout le Nouveau Testament, c'est définitivement le livre par excellence sur la louange. Et lorsque je dis louange, je suis en train de parler justement de ce que nous faisons lorsque nous chantons des cantiques, lorsque dans la prière nous commençons à parler des attributs de Dieu, de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu. C'est dans le livre de l'Apocalypse que nous trouvons cette louange. Je dirais après ça peut-être la lettre aux Hébreux, mais on voit la louange dans les lieux célestes, dans le livre de l'Apocalypse d'une manière incomparable. Dans le langage aussi, des langages d'expression, des expressions de louange, des cantiques, les prosternements. Vous savez, une des choses qu'on a soulignées lorsqu'on est arrivé dans le Nouveau Testament, cette idée de se prosterner devant Dieu, quand on arrive dans le Nouveau Testament, ça disparaît pratiquement de l'adoration. Dans l'Église, on voit très peu, dans le Nouveau Testament, l'idée de se prosterner. On le voit quelquefois dans les évangiles où spontanément les disciples vont se prosterner devant Jésus, mais c'est peu présent. Et on le retrouve dans l'Apocalypse. 24 fois, on retrouve cette idée de se prosterner. La majorité du temps, comme je le mentionne dans le troisième petit paragraphe, la majorité du temps, il est utilisé pour rendre hommage à Dieu ou à l'agneau, mais quelquefois, il est utilisé aussi pour dénoncer d'autres prosternements, c'est-à-dire de l'idolâtrie, un culte idolâtre. Une des choses qu'on remarque assez rapidement lorsqu'on lit l'Apocalypse, juste en étant attentif à la question de l'adoration, le langage spécifique de l'adoration est employé dans l'Apocalypse essentiellement pour les croyants qui sont dans le ciel. D'accord? Si vous avez lu déjà quelques fois l'Apocalypse, rappelez-vous, là, l'adoration se passe au ciel. La louange se passe au ciel. Et lorsqu'il est parlé des activités des croyants qui sont encore sur la terre, qui ne sont pas encore dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu, ce n'est pas de la louange, ce n'est pas de l'adoration. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas être instruit sur notre adoration, mais les activités de louange où on déclare la gloire de Dieu, ça se passe dans les lieux célestes. Et ça, c'est frappant. C'est certainement un indice que notre adoration à nous pendant que nous sommes ici-bas sur la terre va être différente de celle que nous allons avoir lorsque nous allons être dans les cieux. Et je pense qu'un élément fort qui ressort du livre de l'Apocalypse, c'est que tant qu'on est sur la terre, une grande partie de nos efforts, de nos énergies selon le livre de l'Apocalypse, est consacré à rester fidèle. Dans l'Apocalypse, il y a deux camps. Il y a le camp des adorateurs de Dieu et le camp des adorateurs de Satan. D'accord? Sous toutes ses formes. Je les mets toutes dans un paquet, là. Mais la bête, d'accord? Tout ça, c'est un camp. Et il y a le camp de ceux qui essaient de rester fidèles à Jésus-Christ. Et cette idée-là d'être fidèle, de soutenir le bon combat, de persévérer à travers les persécutions, c'est très, très fort dans l'Apocalypse. Et probablement que ça nous aide, c'est-à-dire, moi, ça m'aide à comprendre l'idée que ben, mon activité principale, ça ne va pas être d'être pâmé devant Dieu, ça va être de soutenir le bon combat. Et probablement que ça va être une partie de mon adoration, soutenir le bon combat de la foi. Alors que lorsqu'on va être délivré de ce combat-là dans la présence de Dieu pour l'éternité, on n'aura plus ces luttes-là à livrer. D'accord? Vous me poserez des questions là, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, deux catégories d'adorateurs. L'adoration à Dieu, l'idolâtrie. En effet, l'humanité est divisée en deux camps, les adorateurs de la bête et du dragon et les adorateurs de Dieu et de l'agneau. Okay, si vous êtes familier avec l'Apocalypse, là, vous savez de quoi je parle. C'est très fort, c'est très clair dans le livre de l'Apocalypse. Selon l'Apocalypse, le conflit entre Dieu et Satan prend forme historique dans le conflit d'allégeance qu'exprime l'adoration. Alors, il y a un conflit entre Dieu et Satan, puis dans le livre de l'Apocalypse, on voit ce conflit-là devenir concret dans le cœur des hommes lorsqu'un homme choisit s'il va être un adorateur de Dieu ou un adorateur de Satan. C'est là que ça devient concret. Le conflit universel entre Dieu et Satan est transposé sur la terre de manière concrète dans le cœur de chaque individu qui choisit son camp. D'accord? C'est un conflit universel, c'est un conflit cosmique entre Dieu et Satan. Et la manière qu'il se reflète sur la terre, on devient un adorateur de Dieu ou un adorateur de Satan. Sous toutes ses formes, toutes les formes d'idolâtrie, d'accord? On est sous l'emprise du prince de ce monde lorsqu'on est en train de courir après d'autres dieux que le Créateur. Et ça, c'est très, très fort dans le livre de l'Apocalypse. C'est très présent. Une leçon pratique pour nous. À toute époque, nous sommes appelés à chercher à identifier comment se manifeste ce conflit d'adoration entre le culte à Dieu et le culte à Satan. Dans mon quotidien, dans ma vie, il y a un combat cosmique, littéralement, qui est en train de se livrer. Et ça se joue sur la terre à savoir si je vais être un adorateur de Dieu ou un adorateur du mal. Et à toute époque, les chrétiens sont cherchés à identifier où est-ce qu'il y a le combat, où est-ce que je vois ces deux forces-là s'opposer autour de moi, dans la société. Je peux prendre des exemples simples, évidents, l'avortement. C'est un combat. C'est un combat qui est bien au-delà de un homme et une femme qui, oups, c'est un petit accident, il y en a un en chemin, puis là, on décide si on va prendre cette solution-là ou l'autre. Quand tu lis l'Apocalypse, c'est pas juste une décision qui se prend autour d'un café pour prendre un petit rendez-vous. Quand tu lis l'Apocalypse, c'est un combat cosmique qui est en train de se passer ici, entre Dieu et le diable. Et les adorateurs de Dieu vont choisir la vie. Les adorateurs du diable vont choisir la mort. Apocalypse 14, 6 et 7, nous sommes appelés à adorer le vrai Dieu sur la base d'un évangile d'une bonne nouvelle éternelle. Je vous lis le passage. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. La bonne nouvelle éternelle est que le Créateur mérite toute notre adoration et mérite d'être craint et révéré. Dans le livre de l'Apocalypse, c'est comme si la place de Dieu et de l'agneau, chacun retrouve sa place dedans. Et tu réalises que Jésus-Christ n'est pas venu tasser Dieu. Il est vraiment là au service du Père. On retrouve la même idée dans les évangiles. Jésus n'est pas venu pour supplanter le Père. Il est venu se placer au service du Père. Quand on lit l'Apocalypse, on voit ce culte au Dieu créateur qui est très présent. D'accord? Et la bonne nouvelle, en définitive, c'est une réconciliation possible avec le Dieu créateur, avec celui qui a créé les cieux et la terre. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle éternelle qui est annoncée dans le livre de l'Apocalypse. Vous allez voir, je l'ai gardé un petit peu en bullet point. Je vais survoler quelques éléments en espérant que ça tienne un fil qui est un fil continu dans votre esprit. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Apocalypse 1. Je veux juste vous montrer que c'est au début. Dans le livre de l'Apocalypse, on se promène dans ce qui se passe sur la terre et ce qui se passe dans les cieux. Et lorsqu'on cherche dans le livre de l'Apocalypse des activités d'adoration ou un langage pour l'adoration pour les croyants qui sont sur la terre, ce n'est pas évident d'en trouver. Maintenant, dans Apocalypse 1, versets 5 et 6, on est au tout début, d'accord? Vous avez l'introduction. 5b, la deuxième partie de 5, dépendamment de l'édition de la Bible que vous avez. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, si on veut chercher un langage d'adoration, nous parler d'adoration pour les croyants qui sont sur la terre, on a ça ici, et ça, c'est majeur. D'accord? Après, ça va se traduire beaucoup par soutenir le bon combat, rester vrai, garder l'Évangile, demeurer dans la vérité, garder un amour entier, refuser d'aller adorer la bête. Après, ça va ressembler à ça, ce qui est demandé des croyants sur la terre. Mais ici, on a quelque chose qui nous ramène au langage de l'adoration dans l'Ancien Testament. C'est l'accomplissement de la promesse qui avait été donnée dans Exode 19. Dans Exode 19, Dieu avait dit qu'il ferait d'Israël un peuple de sacrificateurs, un peuple de rois et de sacrificateurs. Ça vient s'accomplir ici en Jésus-Christ. On le voit de manière excellente au ciel, mais ça, c'est pour nous qui sommes sur la terre. Donc, les promesses qui avaient été données sont déjà en train de s'accomplir. Tournez dans Apocalypse 7, versets 9 à 15. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen !» Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » C'est pour cela qu'ils sont devant le trône et ils servent et le servent jour et nuit dans son temple. Alors, la promesse qui avait été donnée à Israël, que Dieu ferait de tout son peuple un peuple de sacrificateurs, s'accomplit en Jésus-Christ avec des gens de toute nation, de toute tribu qui sont en train de servir Dieu dans son temple. D'accord? On voit l'accomplissement de ce qui avait été annoncé dans Exode. C'est en train de s'accomplir ici. Pour nous qui sommes sur la terre, nous sommes déjà un peuple de rois, de sacrificateurs. On peut entrer dans la présence de Dieu. Mais dans les lieux célestes, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, toute cette multitude de toute nation est en train de servir dans le temple. Dans l'Ancien Testament, c'est qui allait servir dans le temple? Les sacrificateurs. D'accord? Maintenant, on arrive à l'accomplissement de cette promesse qui avait été donnée dans les lieux célestes. Et je pense qu'un des buts importants du livre de l'Apocalypse qui ressort très clairement, c'est de nous encourager à réaliser que ça s'en vient. On va arriver là. Soutenez le bon combat. La promesse va s'accomplir. Vous allez entrer dans la terre promise. Tout à l'heure, on va être dans Matthieu 26 pendant la prédication. Et puis, quand Jésus prend le dernier repas, je ne peux pas rentrer dans toutes les traditions juives, là, mais il y a une des coupes qu'il prenait pendant le repas de la Pâque que Jésus ne prend pas, puis il dit, celle-là, je vais la prendre lorsque je serai avec vous, dans le royaume de mon Père. D'accord? Alors, on est en route vers la terre promise, on n'est pas rendu encore, mais ici, ils sont rendus, là. Et c'est écrit pour nous inspirer à persévérer jusqu'à ce que nous arrivions dans la terre promise, dans la présence de Dieu. Mais on voit déjà dans Apocalypse 1 que Dieu a déjà fait de nous un peuple de sacrificateurs. D'autres traductions vont dire non pas un royaume, mais un peuple de rois et de sacrificateurs. Lorsque nous cherchons à identifier un langage sur l'adoration pour les chrétiens, je reviens dans mes notes, qui demeurent sur terre, nous devons bien sûr nous arrêter sur ce passage merveilleux. Un tout petit peu plus bas, ainsi les chrétiens sont faits des sacrificateurs pour Dieu par opposition au culte de la bête. D'accord? Si dans la présence de Dieu, ceux qui sont déjà dans les cieux n'ont plus à livrer ce combat-là, mais sont consacrés entièrement au service de Dieu dans le temple céleste, ici sur la terre, notre rôle de sacrificateur va s'exprimer ou se manifester par le fait qu'on refuse d'aller servir un autre Dieu, servir le diable. Sous toutes ses formes, toutes ses expressions, comme prince de ce monde, domination de ce monde. D'accord? Ainsi, mon rôle de sacrificateur de Dieu, concrètement, bien, lorsque je décide de ne pas vouer un culte au prince de ce monde, je refuse de travailler au noir. Est-ce que je peux aller jusque-là? Je refuse de travailler au noir. Est-ce que de courir après l'argent au point de poser des gestes illégaux, est-ce que ce n'est pas de vouer un culte au prince de ce monde, au principe de ce monde? Je refuse de faire ça. Pourquoi je refuse de le faire? Parce que moi, je suis un adorateur de Dieu. Je suis un sacrificateur de Dieu. Je ne peux pas aller faire ce culte-là. J'ai un autre appel. Ainsi, les chrétiens sont faits des sacrificateurs pour Dieu par opposition au culte de la bête. Je l'ai dit, dans le contexte terrestre, nous pourrions dire que l'adoration des chrétiens est particulièrement exprimée par la persévérance dans l'amour et le service de Dieu. Alors, vous pouvez lire les exhortations aux sept églises et vous voyez les réprimandes, les encouragements, les félicitations et vous voyez en cela qu'est-ce qui est attendu des croyants qui sont encore ici. Et ce qui ressort de tout ça, c'est persévérer, soyez fidèles, gardez le bon combat, ne vous détournez pas, n'allez pas adorer un autre Dieu, n'allez pas servir le prince de ce monde, restez fidèles à Christ jusqu'à la fin. Et si vous restez fidèles à Christ jusqu'à la fin, vous allez entrer dans la terre promise. D'accord? Mais il y a vraiment cette lutte-là, ce combat cosmique-là qui est présent. Et notre mandat à nous comme sacrificateurs de Dieu, c'est d'être trouvés fidèles. Et je pense que c'est l'intention de Dieu. Je me répète, là, mais je pense que c'est l'intention de Dieu avec l'Apocalypse. C'est de nous faire soupirer après ce jour où nous n'aurons plus à soutenir ce combat-là. On va simplement être dans la présence de Dieu et célébrer sa gloire. Et quand tu lis l'Apocalypse, il y a cette... On a hâte d'arriver là. On a hâte de sortir de cette lutte-là, de cette bataille-là et se consacrer à l'adoration, pas en résistant au mal, face à face avec Dieu. Mais évidemment, si tu es au milieu d'adorateurs qui adorent un autre Dieu, ton combat est un autre. Tu n'as pas juste les yeux fixés sur Christ, tu dois aussi constamment être en train de veiller pour ne pas te détourner. Juste une observation, l'adoration dans les lieux célestes, il y a trois objets principaux ou trois sujets de l'adoration principaux qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Le Dieu créateur, comme je l'ai mentionné, il y a un bel équilibre quand tu arrives dans le livre de l'Apocalypse où pendant tout le Nouveau Testament, tu as un accent extrêmement fort sur Jésus-Christ. Puis là, quand tu arrives dans le livre de l'Apocalypse, c'est comme si le mandat premier de Jésus-Christ était de venir résoudre cette guerre cosmique-là. D'accord? Elle est résolue, puis là, on est dans la présence de Dieu et de l'agneau. Et donc, il y a vraiment le culte ou l'adoration du Dieu créateur qui est très fort dans l'Apocalypse. Le Christ rédempteur, c'est présent aussi. Et puis le Dieu qui accomplit ses promesses. On n'ira pas voir tous ces passages-là. D'accord? Mais trois objets de l'adoration de ceux qui sont dans les cieux, le Dieu créateur, le Christ rédempteur, le Dieu qui accomplit ses promesses. Ces trois sujets majeurs de la louange qu'on trouve dans les cieux. Maintenant, je pense aussi qu'on peut dire que s'il y a une fenêtre qui nous est ouverte pour voir comment la louange se passe dans les cieux, qu'est-ce que les adorateurs disent avec leur bouche, je pense que si tout ça est là, c'est fait pour nous inspirer aussi. C'est fait pour instruire notre louange à nous. Et donc, on devrait aller vers l'Apocalypse pour voir comme d'une manière hors combat. Tu sais, sors du combat du quotidien, sors du combat de la terre, là, puis qu'est-ce qui va rester? Et là, tu vas lire les louanges qui sont présentées devant le trône. Tu vas les lire et tu dis, une fois qu'on va être sorti du combat, c'est ça. Ça va être ça, notre louange. Et ceci devrait inspirer nos louanges ici-bas. Parce que nous aspirons à ça. Et donc, on devrait aller lire l'Apocalypse pour instruire, pour inspirer, pour inspirer nos cantiques, nos chants. Et si vous lisez plusieurs cantiques, vous allez voir que c'est le cas. Si l'adoration semble se passer essentiellement au ciel dans le livre de l'Apocalypse, nous ne pouvons nier que Jean décrit toute cette gloire céleste aux chrétiens qui luttent ici-bas pour demeurer fidèles afin d'inspirer les cœurs des croyants et certainement inspirer leurs louanges. Le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui devrait nous faire peur parce qu'il y a des grandes sections qu'on ne sait pas quoi faire avec puis on ne sait pas comment ça fonctionne. On le lit pour ce qu'on y comprend. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie chrétienne, il y a des choses qui se placent dans notre compréhension. Mais on le lit pour ce qu'on y comprend et il y a énormément de choses à comprendre dans l'Apocalypse. Quand tu as une description de la gloire de Dieu, ce n'est pas difficile à comprendre. C'est la gloire de Dieu qui est exprimée. On peut aller en lire juste une, d'accord? On va les lire dans Apocalypse 5. Excusez-moi, je suis en train de chercher. OK. 9. Je vais commencer à 8. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Et ça devrait inspirer nos louanges. Ça devrait inspirer notre adoration. Quand vous prenez du temps pour louer le Seigneur le matin, de ramener nos yeux sur l'éternité, de ramener nos yeux sur le fait que Christ est allé chercher une victoire à la croix qui vient régler une guerre universelle, cosmique, et qu'on va célébrer après ça dans l'éternité, le fait qu'il nous a rachetés, le fait qu'il a été immolé pour nous, le fait que le pardon de nos péchés se trouve là, ça devrait inspirer nos louanges, notre adoration. Oui. Ouais.
Est-ce qu'on peut penser que Dieu a créé pour justement régler ce combat-là? Quand il dit au début, au commencement, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, déjà il a commencé à faire l'œuvre pour séparer, donc pour gagner ce combat-là. Il l'a fait physiquement, mais il l'a fait aussi spirituellement parce qu'on était choisis avant la fondation du monde. Donc il avait déjà séparé les enfants des ténèbres, les enfants de lumière.
Puis ta question, c'est?
Mais c'est pas une question, est-ce que de voir la création comme la façon que Dieu a amené à gagner le combat cosmique contre Satan, contre le mal, afin de révéler sa gloire, parce que sa gloire est ternie au moment où Satan est venu. Parce que dès qu'on fait
on fait le bien, on honore Dieu. Si on fait le mal, donc on honore Satan. Donc, pour que sa gloire soit vraiment complète, il fallait qu'il puisse complètement ôter tout le côté du mal, tous les adorateurs du mal, tout l'objet de l'adoration. Satan, donc la création, c'est la façon dont Dieu s'est servi pour faire cette séparation-là.
Est-ce que vous comprenez ce que... Oui. Moi, je pense que, moi, personnellement, là, puis ça se peut que je trouble 2-3 personnes ce matin, d'accord? Moi, je prends un pas de recul encore. Puis dans l'éternité, ce qu'on va célébrer, c'est la victoire de Dieu. Fait que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est manifestée par le fait qu'il y avait une guerre qui allait venir et qu'il allait y avoir une victoire qui allait venir. Oui, maintenant, au-delà de la création, là, ce que je veux dire, c'est que quand tu lis le livre de l'Apocalypse, c'est que tu réalises que s'il n'y avait pas eu de conflit entre le bien et le mal, si le mal n'avait pas été présent, s'il n'y avait pas eu de victoire de Christ, le Dieu qu'on aurait connu, c'est-à-dire il y a un aspect de Dieu qu'on aurait connu et il y a un aspect qu'on n'aurait pas connu de Dieu qu'on découvre en Jésus-Christ. Et donc, si dans l'éternité, on va adorer l'agneau, c'est qu'on va adorer celui qui a vécu. Personnellement, une des manières que je me réconcilie avec l'existence du mal dans le monde puis dans nos vies, personnellement, là, pour moi, lorsque je lis la Bible, lorsque je lis l'Apocalypse, je suis en train de me promener dans un musée, puis je suis devant une grosse toile de Raphaël qui me représente toute l'histoire de l'humanité. Et il y avait dans cette histoire-là des choses sombres, des choses terribles, mais qui font éclater la gloire de Christ et qui fait éclater la gloire de Dieu. Et donc, tout ça là, qui a l'air d'un gros gâchis, là, c'est une grande fresque que Dieu est en train de faire à sa gloire. Puis nous, on va admirer ça sans plus aucune larme, sans plus aucune tristesse de tous les aspects noirs qu'il y a dans cette toile-là, parce que ce qu'on va voir, c'est la victoire de Christ. D'accord? Et ça me réconcilie avec le fait qu'il y a le mal dans le monde, personnellement. Les philosophes vont vous répondre simplement, s'il y avait eu un autre moyen de faire quelque chose de plus grand, Dieu l'aurait pris, parce que Dieu fait tout par excellence. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen de manifester la gloire de Dieu de manière aussi grandiose qu'à travers ce cataclysme-là. Et lorsque vous lisez le livre de Job, c'est un petit peu le même phénomène que vous trouvez. Vous voyez Dieu qui permet des épreuves dans la vie de Job qui vont amener à manifester davantage la gloire de Dieu dans la vie de Job. Fait qu'il y a un mal qui est permis. Ce n'est pas un mal qui est souhaité par Dieu. Dieu est bon. Ce n'est pas un mal qui est promu par Dieu. Ce n'est pas un mal qui est planifié par Dieu. Non. C'est pour ça que je vous dis, je vais en troubler quelques-uns, d'accord?
En créant quelque chose, Dieu a simplement, parce que tout
créé
bon, il a simplement démontré qu'il y avait ce combat cosmique-là.
Oui, mais je veux dire, ultimement, je peux dire que si Dieu n'avait rien créé, il n'y aurait pas eu de combat cosmique. Si Dieu n'avait rien créé, il n'y aurait pas eu de combat cosmique, c'est tout. Puis, mais ça manifeste la gloire de Dieu. Et lorsque vous lisez la lettre aux Romains, vous allez voir celui qui a été créé comme un vase d'un usage vil. Puis c'est le même thème qui revient, c'est là dans les Écritures, d'accord? Je ne suis pas en train de philosopher puis de vous imaginer quelque chose qui ne sort pas de la Bible, là. Mais je suis en train de vous dire que dans l'éternité, ce que nous allons faire, c'est que nous allons apprécier la gloire de Dieu manifestée à travers cette œuvre-là. C'est une fresque que Dieu est en train de dépeindre. Et plutôt qu'être troublé par le fait qu'il y a il y a du mal, il y a de la souffrance, il y a des choses comme ça dans cette histoire-là, la grâce que moi j'ai, c'est de réaliser que dans la pièce, là, je fais partie des millions qui vont célébrer la gloire de Dieu puis qui ont été graciés malgré le mal que j'ai fait. Et je suis là, je fais partie de ces élus-là. Oui, Marcel.
Mm-hmm.
Oui, oui. Je vous dirais que lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse, alors c'est vrai, il y a l'aspect que lorsqu'on va voir en face, il y a un sens humain qui va être comblé, on va être dans la présence de Dieu directement. Ce qui ressort encore plus fortement que ça dans l'Apocalypse, c'est que notre soupir, c'est d'être libéré du combat ici-bas. Libéré de cette chair, libéré de du diable qui a tellement d'adorateurs sur la terre. Et c'est cette libération-là qui est le plus gros soupir dans l'Apocalypse, d'être dans la présence de Dieu pour être libéré de tout ça. Puis écoutez, c'est votre combat de tous les jours, vous savez c'est quoi, hein? On lutte contre le péché, on soupire après cette libération de lutter contre le péché. Je pense que c'est là qu'on va être, si tu veux faire un lien avec l'idée qu'on va être entier, parce qu'on est des êtres humains entiers, puis il nous manque quelque chose, ce qui nous manque, c'est d'être libéré de cette chair. Où le péché veut encore dominer. D'accord? Oui. Petite question. Je vais peux-tu parler plus fort? Que la gloire de Dieu avait été entachée. Oui, Dieu dans sa gloire n'a jamais été affecté. Dieu n'est pas affectable par nous. Mais son nom a été sali certainement sur la terre, ça serait juste de le dire. Puis son nom est célébré, Christ est venu rétablir le culte possible à Dieu. Je pense que ce serait juste de dire ça, l'alliance avec Dieu. Ouais, c'est un des aspects importants. Quand il ouvre l'accès à la présence de Dieu, il rend possible d'avoir des adorateurs aussi à Dieu. En tout cas, j'espère que je n'ai pas troublé trop de monde avec ça, mais je vous le dis, c'est un thème important dans les Écritures. Puis le jour où vous allez être en paix avec cette vérité-là, ça change énormément de choses dans votre vie. Parce que ce que vous réalisez quand il arrive des épreuves, je parle de la fresque, là, l'idée que tout ce combat cosmique-là faisait partie des desseins de Dieu quand même. Il n'y a rien qui se passe que Dieu ne permet pas. Et tout ça contribue à sa gloire, et ce n'est pas injuste et immoral de la part de Dieu. Puis quand vous arrivez à vous placer dans cette fresque-là ou devant cette fresque-là et puis vous dites « ça, c'est la gloire de Dieu », il y a comme plein de choses qui deviennent simples. Quand le mal survient dans ma vie, je fais juste replacer ça dans ce combat cosmique-là où je dis « bon, ben je sais pas, je me fais cambrioler, il arrive quelque chose, on me fait du mal, une injustice, tout ça ». On est en train de peindre une fresque. Dieu, à travers ma vie, est en train de peindre un tableau à sa gloire. Et moi, je veux être un agent. Je veux faire partie des côtés rayonnants de cette toile-là. Comprenez? Et mes souffrances, comment je réponds dans ces souffrances-là, dans ces douleurs-là, vont servir à manifester sa gloire si je décide de l'adorer à travers mon épreuve. Je sais que c'est probablement théorique là, pour quelques-uns d'entre vous. Pour d'autres, c'est des choses qui peuvent se placer dans votre pensée. Et quand tu vas accompagner quelqu'un qui est en train de traverser un cancer, ça fait une différence. Parce que tu t'en vas t'asseoir avec lui, tu lui rappelles, Dieu est en train de faire cette toile-là, on n'est pas rendu, la toile n'est pas terminée. Lorsqu'on va être dans les cieux, tu vas célébrer sa gloire, tu vas te rappeler de la grâce qui t'a soutenu à travers l'épreuve. Et ça, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Tu replaces les choses dans cet ordre-là. Et je pense que c'est ça que Dieu veut faire avec le livre de l'Apocalypse. Mais si je vis ma vie chrétienne, puis je fais mon culte ce matin, seulement pour que Dieu me donne un truc pour être patient dans ma journée... Comprenez, c'est pas beaucoup, là, je veux dire. Finalement, je peux décider de prendre le truc pour être patient dans la journée ou me dire, je passe à travers ma journée puis je bois une bière. Puis je vais relaxer à la fin de la journée. Tu sais, je veux dire, en un puis l'autre. Mais si je réalise que je m'en vais faire mon culte pour être un adorateur de Dieu, pour contribuer à sa gloire, pour manifester sa gloire, puis la patience, je vais la trouver en Jésus-Christ. Juste attendre ma petite bière qui va me donner un petit buzz à la fin de ma journée pour pouvoir relaxer. Ça devient tellement vain comme affaire comparativement à ce que je peux faire à travers mon épreuve. Je m'en vais vers les Écritures pour être patient, pas pour être patient, pour être un adorateur de Dieu. Je veux lire les proverbes, je trouve la sagesse parce que c'est la sagesse de Dieu. Je veux ressembler à Dieu, je veux être comme lui. Je veux contribuer à la manifestation de sa gloire. Je veux être un adorateur de Dieu. Je fais partie du camp des vainqueurs. Et lorsque la toile va être finie, je vais être là en train de célébrer sa gloire. Et c'est pour ça que je lis le livre des proverbes, pour être patient au travail aujourd'hui. Je comprends qu'on n'y pense pas chaque matin quand on fait notre culte. Mais plus on grandit en connaissance de ce que Dieu est en train de faire, plus ces choses-là deviennent naturelles dans notre vie. Cette perspective-là devient naturelle. Ça va le devenir d'une manière ou d'une autre. En grandissant dans mon appréciation de Dieu, dans ma compréhension de Dieu, ou en me rapprochant de la mort. Alors, on voit des chrétiens qui restent immatures une grande partie de leur vie. Puis dans les derniers jours, les derniers mois, les dernières semaines, tout d'un coup, ils deviennent des pèlerins. Hop, tout d'un coup, là, ils réalisent, « Hey, je suis un pèlerin, moi, ici, sur la terre, puis je m'en vais de l'autre bord. » C'est sûr qu'il y a une tristesse, parce que tu regardes le reste du temps, puis ils ont vécu comme s'ils étaient installés ici. Mais si je peux grandir tout de suite, puis réaliser, « Non, 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 on est dans une grande fresque, là, il y a une grande histoire qui est en train de se faire, il y a un combat cosmique qui va manifester la gloire de Dieu. » Si je le réalise maintenant, je vis comme un pèlerin. Je suis dans une course. Ça va? J'aimerais faire une conclusion pour l'ensemble du cours. J'ai essayé de résumer... Puis là, il y a plusieurs personnes qui se sont joints juste ce matin parce que les autres cours sont terminés. Là. Alors, ça va être un peu dense, la conclusion. Évidemment, l'objectif premier de l'auteur, pardon, du livre dont je m'inspire pour le cours, c'est de poser la question, est-ce que ce que nous concevons souvent comme chrétiens contemporains, comme étant de l'adoration, est-ce que c'est vraiment juste ça, l'adoration? Alors, naturellement, lorsqu'on parle d'adoration dans les églises, et puis en anglais, le terme est encore plus, préjugé, si je peux dire, worship. Ouais, worship, c'est vraiment juste une chose en anglais. Hein? C'est des CD, c'est de la musique, c'est chanter. Ça, c'est worship en anglais. En général, le terme est stigmatisé, il est pris dans une boîte. Et donc, lorsque nous, on parle d'adoration... La question de l'auteur au départ, c'est est-ce que c'est vraiment ça l'adoration selon les Écritures? Évidemment, la réponse est non. C'est une partie de l'adoration. Alors, je vais vous lire tranquillement la conclusion que j'ai écrite. Je vais juste un petit peu développer les lignes principales. En conclusion, nous pouvons dire que l'adoration selon la Bible est tout d'abord la réponse d'hommes et de femmes à une initiative divine de révélation et de rédemption. Ceux qui sont avec nous depuis le début du cours, vous vous rappellerez que le peuple d'Israël, et à chaque fois qu'un homme est devenu un adorateur de Dieu, c'est parce que Dieu prend deux initiatives dans cette relation-là. Premièrement, Dieu se révèle, Dieu se fait connaître. Je ne peux pas être un adorateur de Dieu si Dieu ne se fait pas connaître à moi. Révélation, c'est une initiative de Dieu pour se faire connaître. C'est très clair avec Israël. C'est très clair lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament. Dans ces temps qui sont les derniers, Dieu a parlé à travers son Fils Jésus-Christ. La révélation par excellence. C'est l'initiative de Dieu. Dieu est venu vers nous pour se révéler. Et sur l'initiative de Dieu, on peut devenir des adorateurs. Révélation, rédemption. Pour devenir des adorateurs, il faut que Dieu rachète. Parce que Dieu est en train de faire des adorateurs à partir des pécheurs. Alors, à chaque fois, il faut qu'il y ait une délivrance. Ça a été vrai avec Israël, ça s'est illustré avec la délivrance d'Égypte, on va en parler tantôt dans la prédication. Mais ça a été vrai avec Israël, et ça préfigurait la vraie délivrance, la délivrance du péché, la rédemption de nos péchés. D'accord? Ce thème-là, ces deux thèmes-là, révélation, rédemption, sont présents dans toutes les Écritures. C'est le fondement, la base sur laquelle on peut devenir des adorateurs de Dieu. C'est une initiative de Dieu qui vient se faire connaître à nous, et qui vient nous racheter. Puis là, on peut devenir des adorateurs de Dieu. Ça veut dire que toute personne qui ne connaît pas le Dieu qui s'est révélé, qui n'a pas été racheté, ne peut pas être un adorateur de Dieu. C'est impossible. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, « Moi, j'aime Dieu, mais je ne connais pas Jésus-Christ. » Tu ne peux pas être un adorateur de Dieu. C'est impossible. Il faut qu'il se fasse connaître à toi, il faut qu'il te rachète. Si le rachat est juste à travers Jésus-Christ, il n'y en a pas d'adorateur de Dieu à l'extérieur de ceux qui ont été rachetés en Jésus-Christ. Donc, c'est une réponse d'hommes et de femmes à une initiative de Dieu. Concrètement, cette adoration est instruite et entendue par une alliance apportée par Dieu. Le thème de l'alliance dans les Écritures est majeur. Dieu se révèle, Dieu rachète, il t'invite à rentrer dans une alliance avec lui. Et ça, c'est présent dans l'Ancien Testament, c'est présent dans le Nouveau Testament. Vous aviez l'Ancienne Alliance, vous avez la Nouvelle Alliance, qui est tout simplement l'Alliance par excellence qui vient remplacer l'Ancienne. Donc, comment est-ce qu'on devient un adorateur de Dieu? Il se révèle à nous, il nous rachète et il signe un contrat avec nous. Tu veux devenir mon adorateur? Je vais t'expliquer qu'est-ce que j'attends de toi. Je vais t'expliquer ce en quoi je m'engage envers toi. On va traiter une alliance ensemble et tu vas devenir mon adorateur et je vais devenir ton Dieu. Et on va trouver dans l'alliance les conditions de cette adoration-là. Nous, comme chrétiens, comme croyants du Nouveau Testament, nous devons lire le Nouveau Testament comme le livre de l'alliance. Vous voulez savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous? Lisez le Nouveau Testament, l'Ancien Testament aussi, parce qu'il vient éclairer le Nouveau Testament, mais on lit la Bible comme le livre de l'alliance. Et lorsque je lis les évangiles, je n'arrive pas devant Jésus en disant « Il est flyé, ça n'a pas de bon sens ce qu'il dit. » Non, c'est le livre de l'alliance. C'est l'engagement que je prends lorsque je décide de suivre Jésus-Christ. J'ai ses engagements et j'ai mes engagements dans ce livre-là. C'était vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai maintenant. Les adorateurs de Dieu sont des gens qui sont entrés dans une alliance avec Dieu. Fait quelqu'un qui vous dit « Moi, je connais Dieu, puis ah oui, moi j'aime Dieu. » Est-ce que tu es entré dans l'alliance avec Dieu? C'est quoi ton alliance avec Dieu? Est-ce que Dieu t'a fait connaître l'alliance dans laquelle il veut que tu entres? De quoi tu parles? Pour le chrétien, l'adoration repose donc sur une révélation de Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ, parce qu'on a la révélation par excellence en Jésus-Christ, et une alliance rendue possible par la rédemption offerte en Jésus-Christ. D'accord? Dieu se révèle à travers Jésus-Christ. Si je reprends les thèmes, là, la révélation, la rédemption, l'alliance, Dieu se révèle à travers Jésus-Christ. Dieu nous rachète à travers Jésus-Christ. Parce qu'il nous rachète, l'alliance est rendue possible. Je ne peux pas traiter une alliance avec Dieu si je suis un pécheur. Uniquement, non purifié, non pardonné, c'est impossible. Je ne peux pas traiter d'alliance avec lui. Il faut que je sois sanctifié, il faut que je sois purifié, il faut que je sois lavé de mes péchés. Autrement, il n'y aura jamais de contrat entre Dieu et moi. Parce que Dieu est saint. Et moi, je dois être un peuple saint, je dois être un homme saint si j'entre dans une alliance avec lui. Donc, je répète juste cette phrase-là. Pour le chrétien, l'adoration repose donc sur une révélation de Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ et une alliance rendue possible par la rédemption offerte en Jésus-Christ. Voyez-vous qu'on est loin juste de chanter des cantiques? Mais on est même loin juste de dire des louanges dans la prière. Si je saisis là, juste ces quelques lignes-là, là, il y a déjà beaucoup d'intelligence dans ce que je suis en train de faire. Puis on ne s'est pas rendu encore dans le quotidien puis qu'est-ce que ça change tous les jours dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions juste sur les trois premières parties? Est-ce qu'il y a quelque chose de flou, de vague pour vous ou c'est limpide ce que je suis en train de dire? Votre silence, ça veut dire que c'est limpide, c'est ça? Oui? Gênez-vous pas, là, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Boy, je suis limpide, je vais dire ça à mon épouse. C'est vraiment pas une de mes forces. Envers celui qui se confie en Jésus-Christ, Dieu accomplit sa promesse en faisant de lui un sacrificateur pour Dieu. Alors là, je me tourne vers le Nouveau Testament vraiment. Dieu accomplit sa promesse envers lui en faisant de lui un sacrifice pour Dieu. Jésus-Christ est et demeurera donc au cœur de l'adoration du chrétien, puisque c'est par lui que Dieu nous a tout donné. Alors quand j'arrive dans le Nouveau Testament, il y a un nouvel objet de notre adoration. Pas un objet, mais un sujet, une nouvelle personne qu'on va adorer, une nouvelle révélation de la personne de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tu n'adores pas Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, tu adores Dieu, puis ça reste là, ça reste global. Lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, il y a un nouveau personnage qui entre en scène, qui est majeur et qui doit demeurer au cœur de notre adoration, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est par lui que tout est rendu possible, que Dieu nous donne tout. C'est par lui qu'on devient un peuple de sacrificateurs. Maintenant, dans le Nouveau Testament, et c'était vrai là, dans l'Ancien aussi, ceux qui ont fait tout le cours, vous allez peut-être pouvoir vous rappeler certains éléments qu'on a vus au début. La proclamation de l'œuvre et du nom de Jésus-Christ est en soi un acte d'adoration. D'accord? Quand j'arrive dans le Nouveau Testament, on voit que confesser, professer, dire de ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il a été envoyé par Dieu, qu'il est le seul moyen d'être sauvé, c'est déjà un acte d'adoration. Je suis déjà en train de glorifier Dieu en disant « Il n'y a de salut en aucun autre. » Je suis en train d'adorer. Je me présente devant mon ami au travail qui ne connaît pas le Seigneur, puis je lui dis « Écoute, je sais que c'est bizarre pour toi tout ça, mais je te dis, il n'y a pas d'autre moyen d'être en paix avec Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Je suis en train d'adorer. » Parce que je suis en train de proclamer. De la même manière que le peuple d'Israël tournait autour de la ville, puis déclarait la gloire de Dieu, Il était en train d'offrir un culte à Dieu, il était en train de célébrer la gloire de Dieu devant des nations qui disaient, « Pah, votre Dieu, c'est rien. » Alors, lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament, proclamer l'œuvre et le nom de Jésus-Christ est un acte d'adoration en soi. Il va prendre diverses formes, l'évangélisation, l'enseignement, la louange. Donc, le dimanche matin, si le prédicateur en avant fait un bon travail et expose bien la parole de Dieu, Christ va sortir dans toute sa gloire à travers le passage et on va être en train d'adorer Dieu, tout simplement par le fait que vous êtes assis là puis vous dites, « Seigneur, parle-moi de ta beauté. » C'est un culte d'adoration que vous êtes en train de rendre, que moi, je suis en train de rendre en proclamant Dieu. Quand je suis en train d'étudier les Écritures puis de chercher Christ dans toute sa majesté à travers tous les passages de la parole puis de voir comment la révélation à Jésus-Christ vient éclairer ce passage-là, je suis en train d'offrir un culte à Dieu à ce moment-là. Pas seulement pendant le temps où on est en train de chanter des louanges. Certainement pendant nos louanges, lorsqu'on chante la gloire de Jésus-Christ, on est en train d'adorer Dieu. Oui? Pardon? Oui. C'est excellent. Excellent, absolument. Alors, par exemple, j'entendais cette semaine aux nouvelles que Stephen Hawking a publié quelque chose. Vous connaissez Stephen Hawking? Un chercheur éminent qui sert la cause athée. Mais il est de plus en plus convaincu qu'il y a des extraterrestres qui existent. Alors, Dieu n'existe pas. C'est farfelu de croire en Dieu, mais c'est scientifiquement logique, selon lui, de croire dans l'existence des extraterrestres. Il est en train d'offrir un culte. Par sa déclaration, par le document qu'il produit, il est en train d'adorer la bête. D'accord? Parce qu'il est opposé à Dieu. Il est en train de faire son culte. Dans ses croyances, dans sa foi, dans sa religion. Oui, monsieur Pré. Oui, mais pas sûr que M. Hawkins cherche. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis on devrait l'être à un moment donné parce qu'on va être dans les lieux célestes, nous aussi, des extraterrestres. C'est pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes que M. Hawkins voit. Donc, lorsqu'on est dans le Nouveau Testament, l'évangélisation, c'est proclamer Jésus-Christ. D'accord? Vous arrivez avec quelqu'un qui est en train de passer par une dépression, puis au travail, ou qui s'en va en burn-out, puis vous lui dites, je vais prier pour toi, je vais prier pour que Dieu te console, puis je t'encourage à lire des psaumes. Je suis en train de le tourner vers les Écritures. Puis un jour, j'aimerais ça te parler de quelqu'un qui peut t'amener énormément de paix dans tes troubles, parce qu'une dépression, c'est jamais juste de l'épuisement physique. Il y a plein de choses aussi dans nos cœurs, dans nos pensées qui sont là. Il y a quelqu'un qui peut t'apporter de la consolation dans ces troubles-là. Je suis en train de lui parler de Jésus-Christ. Donc, on fait de l'évangélisation, pas seulement pour gagner des âmes. Définitivement, on le fait pour gagner des âmes. Mais on fait de l'évangélisation parce que notre mandat à nous comme sacrificateurs de Dieu, c'est de proclamer le nom de Jésus-Christ. Et lorsque je proclame le nom de Jésus-Christ à mes enfants, au travail, à mes amis, je suis en train de faire mon travail de sacrificateur, d'adorateur. Je suis en train de dire la gloire de Dieu. Même chose pour l'enseignement, même chose pour la louange. Alors, lorsque je commence à faire de la formation disciple avec quelqu'un, puis on est en train de se pencher sur les Écritures, puis on est en train d'étudier les Écritures, je peux avoir la vision primaire de dire « je suis en train de former un disciple », mais au-delà de ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'aider un adorateur de Dieu à grandir, on est en train de se pencher sur les ressources qu'on a en Dieu. Je suis en train de faire mon service d'adoration. Lorsque je vais être au ciel, je ne formerai plus des disciples. Comprenez, on va célébrer Dieu. Mais là, ici, on est dans le combat. Il faut que je les équipe à tenir ferme jusqu'à la fin. Et évidemment, la louange, dans nos chants, dans nos cantiques, Christ devrait être au centre de notre louange. Et Alexandre fait un travail extraordinaire pour diriger les dirigeants de louange, les instruire, ramener toujours ça. Christ doit être, son œuvre, l'Évangile doit être au centre de notre louange. Et je vous le dis, on est choyé dans l'Église. On est choyé dans l'Église d'avoir des dirigeants de louange qui grandissent dans leur compréhension de ça, dans leur appréciation de ça, et qui nous ramènent constamment à Jésus-Christ. C'est correct qu'il y ait quelques chants, quelques autres thèmes qui sont à côté, mais on revient toujours à Jésus-Christ. Il est au centre de notre louange. Enfin, tout aussi concrètement, le chrétien offre son service à Dieu en vivant dans son quotidien une vie à l'image de la vie de Jésus-Christ. Une manière de comprendre les lois de l'Ancien Testament, c'est que Dieu, dans son alliance, donne des directives pour que les adorateurs de Dieu ressemblent de plus en plus à Dieu. Les lois dans l'Ancien Testament sont là pour refléter la personne de Dieu, sa bonté, sa justice, sa générosité, sa fidélité, sa sainteté. Les lois sont un reflet de la personne de Dieu, puis celui qui entre dans l'alliance s'engage à ressembler de plus en plus à Dieu. D'accord? Donc, comme croyant, dans mon quotidien, quand je cherche à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, je suis en train de faire mon culte d'adorateur. Dans tout mon quotidien, quand j'agis comme un bon samaritain, quand je décide d'être patient, quand je décide de pardonner, quand je décide d'être fidèle, quand je décide de refuser de pécher, de refuser une convoitise, je suis en train de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Je suis en train d'offrir mon service à Dieu. Je suis dans mon service d'adoration. C'est ça que je suis en train de faire. Dans mon quotidien. Alors, ça veut dire, dans un sens, c'est vrai, quand je passe la balayeuse chez nous, puis quand je suis honnête dans mes transactions, puis quand je suis en train de prendre soin de mes enfants, puis parce que je le fais pour la gloire de Dieu, parce que je le fais à l'image de Christ, lorsque j'arrive, puis j'ai une discussion avec mon épouse, puis je suis fatigué, puis j'aurais le goût de m'impatienter, mais que je décide de renoncer à ça, je suis en train d'offrir mon service d'adoration à Dieu. Tout aussi concrètement, le chrétien offre son service à Dieu en vivant dans son quotidien une vie à l'image de la vie de Jésus-Christ. Ainsi, la vie du chrétien, et ça, c'est un dernier élément que j'ai ajouté à la fin, là, mais on l'a bien vu ensemble. Ainsi, la vie du chrétien, mais surtout la vie de l'Église, devient un temple de Dieu sur terre où la gloire de Dieu est manifestée devant les hommes. Je répète juste ce dernier élément-là. Restez avec moi encore 30 secondes. La vie du chrétien, mais surtout la vie de l'Église devient un temple de Dieu sur terre où la gloire de Dieu est manifestée devant les hommes. Un des derniers thèmes qu'on a vu dans les dernières leçons, c'est l'idée que Jésus-Christ est le temple parfait qui vient remplacer le temple. Chacun des croyants sommes le temple du Saint-Esprit. Mais premièrement, sur la terre, pour l'instant, jusqu'à temps qu'on soit dans la présence de Dieu, l'Église est le temple de Dieu. Et nous sommes des pierres vivantes. Et dans nos rapports les uns avec les autres, dans toutes nos relations, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous lisez les exhortations de Paul, il dit premièrement par les saints, ensuite par les non-croyants. Premièrement dans ton attitude envers les croyants, ensuite envers les non-croyants. Dans nos rapports les uns envers les autres, dans l'Église, dans le fait qu'on se soucie les uns des autres, qu'on prend soin des uns des autres, qu'on se pardonne mutuellement, qu'on s'aime. On a fait un cours v'là deux semaines sur la résolution de conflits. Notre discrétion quant au péché des frères et des sœurs, notre discrétion est un culte à Dieu qui glorifie Dieu. Notre indiscrétion quant au péché des frères et des sœurs, notre holy gossip qu'on peut avoir dans l'Église, porte atteinte directement au temple que Dieu est en train d'édifier sur la terre pour manifester sa gloire. Et donc, lorsque je suis indiscret, puis que je vais dire, hey, tu savais ça que lui, je suis en train d'attaquer le temple que Dieu est en train d'édifier sur la terre à sa gloire. C'est ça que je suis en train de faire. Directement. Alors, l'adoration, c'est beaucoup plus que juste la louange. Je dirais que c'est la cerise sur le sundae, nos louanges du dimanche matin. C'est bon? On va terminer avec une grande pensée philosophique comme ça, puis on va prier. Père éternel, merci. Merci pour ce que toi, tu m'as donné à moi, Yannick, personnellement, dans toutes ces lectures. Ta parole est merveilleuse, Seigneur, et tes desseins sont fantastiques, ils sont merveilleux. Et c'est tellement beau, Seigneur, ce que tu as conçu, ce que tu as accompli en Jésus, ce que tu accomplis à travers l'Église. Merci, Seigneur, pour l'intelligence que tu me donnes de plus en plus à comprendre tes desseins. C'est tellement merveilleux, Seigneur. Et comprendre ces choses, Seigneur, c'est prendre plaisir à laisser ta souveraineté intervenir dans nos vies, nous brasser, nous bouleverser, mais toujours chercher à te glorifier. Seigneur, je te prie de faire grandir cette assemblée, de faire grandir cette Église comme adorateur. Je te prie, Seigneur, de nous instruire afin que lorsque nous venons ici le dimanche matin, nous venions pour offrir un culte. Et lorsque nous quittons ici le dimanche matin, nous quittons pour offrir un culte aussi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.